Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, l'année commence. Elle a déjà commencé, mais je veux dire, on va commencer tout doucement. On va commencer une nouvelle lecture suivie. Et moi, je vais introduire ce moment. On va suivre Josué, le livre de Josué. On va pas suivre Josué, notre frère. Hein. On va suivre le livre de Josué sur la marche chrétienne. Et moi, je voulais juste commencer. Vous voyez un peu le titre. Être chrétien, c'est une rencontre puissance, un changement et l'établissement d'une relation. Parce que finalement, les expériences de la vie, elles vont forger un caractère de manière plus évidente. Plus l'expérience est forte, plus les personnes seront impactées. Et dans le monde, hein, on connaît sûrement, en bien ou en mal, des personnes qui ont été profondément changées par une épreuve, par une difficulté ou par quelque chose de réjouissant. Il y a une épreuve qui a marqué quelqu'un et il est changé. Ou une soudaine reconnaissance. Quelqu'un qui gagne au loto, sa vie, elle change. Quelqu'un qui va malheureusement perdre sa famille, sa vie, elle change. Et ces expériences vont le changer. Et parfois, on fait des rencontres incroyables. Certaines personnes ont rencontré des personnes charismatiques qui ont changé leur vie, qui sont devenues des idoles. Ça peut être un chanteur, un sportif, ça peut être un chercheur, ça peut être qui vous voulez. Et ces personnes influencent, on avait déjà parlé, influence comment je crois, comment je pense, comment je vis. On est influencé, qu'on le veuille ou non, par la culture qui nous entoure. Et pour le chrétien, c'est quoi? Tout a commencé par une rencontre puissante, celle de Dieu lui-même. Et ce n'est plus une personne simple, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est venu à nous, et qui nous a profondément changé. Et ce matin, j'aimerais introduire donc cette lecture que nous allons suivre hein, de Josué après la semaine prochaine, de mettre en avant cette rencontre entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que ça a changé? C'est une invitation aussi pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait à rencontrer Jésus-Christ, à rencontrer Dieu et à établir cette relation. Ce matin, Bible en main, voilà, je vais vous proposer de lire Genèse 12, versets 1 à 9. Mais avant, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est vraie. Ta parole est puissante et tu nous permets humblement, Seigneur, en toute humilité, voilà, de la méditer, de l'échanger ensemble, Seigneur, d'apprendre à te connaître davantage, Seigneur, et guide encore mes propres paroles, Seigneur, qui sont bien petites comparées à ta parole, Seigneur. En toute l'humilité, Seigneur, que tu parles au cœur de chacun, Seigneur, et que nous soyons touchés par ta grâce et par cette rencontre que tu as fait ou que tu feras à ceux et celles qui sont ici, Seigneur, et que nous puissions changer et avoir cette relation vivante avec toi. Amen. Donc, Genèse 12, versets 1 à 9. Je lis dans la version second. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Puis ils partirent dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Jusque-là. Donc c'est quoi le contexte, hein? Vous savez, c'est important de toujours contextualiser. Alors ce passage, hein, pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui connaissent pas, on va le voir tout de suite. Ce passage arrive après le passage qu'on dit de la tour de Babel. Et d'un coup, on passe de la tour de Babel où toute l'humanité est éparpillée par Dieu. On confond les langages, on babelle, ça veut dire bafouiller, babillement. Et d'un coup, on va nous parler d'Abraham. Voici la postérité de Térakh, ça c'est le verset 27 du chapitre 11. Térakh engendra Abraham. On passe d'une humanité éparpillée à un homme. Et dans ce passage, on voit que la rédemption de l'homme n'est pas possible par lui-même. L'humanité vient d'être éparpillée. Encore une fois, Dieu a été obligé d'intervenir. Il était déjà intervenu par le déluge. Il était déjà intervenu aussi avec Adam et Ève, qu'il était obligé de chasser. L'humanité ne peut être sauvée. L'espérance devient impossible. Comment s'approcher de Dieu ? Celui-ci est maintenant séparé physiquement, culturellement. Au début, il y avait une culture, une langue. Maintenant, ça y est, tout est séparé. Mais dans la ville de Charan, un homme, Abraham, va soudainement faire une rencontre qui va ouvrir un plan parfait de rédemption de Dieu pour l'humanité. Un plan que Dieu avait lui-même mis en place avant même la fondation du monde. Il se choisit un homme, un pays, une nation. Et ça va être l'exemple de tous ceux qui vont suivre le même chemin. Voilà pourquoi j'ai pris Abraham, hein. J'aurais pu prendre Paul, qui a fait aussi une rencontre extraordinaire, qui a eu un changement puissant et une relation incroyable. Mais Abraham, c'est-à-dire c'est le premier, c'est celui qui va vraiment être interpellé par Dieu et qui va entrer dans ce plan. Alors bien sûr, d'autres avant lui ont entendu Dieu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que lui va rentrer dans cette marche chrétienne, comme nous verrons. Dieu se choisit un homme. Et dans ce contexte, c'est là où on va voir que Abraham fait une puissante rencontre. Et c'est un Dieu. Bon, ça marche pas, tu peux passer manuellement. Voilà. Il va faire une puissante rencontre. Là, on voit Dieu qui lui dit de sortir de son pays, hein, ça c'est à Genèse 12, versets 1 à 3, il va lui dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Alors, on présente pas beaucoup Abraham, on sait pas grand chose avant sa vie avec Dieu, mais certains exégètes de la parole, ceux qui sont plongés dans la vie telle qu'elle était, l'histoire telle qu'elle était, c'était un homme qui avait de grandes richesses. Il nous dit qu'il est parti avec son troupeau, ses serviteurs, donc c'est déjà pas n'importe qui. Et certains supposent même que son père, qui était décédé, était quelqu'un qui était fabricant d'idoles. À l'époque, on fabriquait beaucoup d'idoles, c'était le moyen de se faire beaucoup d'argent, hein. On l'a vu aussi dans Actes, avec la grande et la Diane des Éphésiens. Ceux qui fabriquaient les idoles avaient tout intérêt de cultiver le culte de cette idole, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Bon après, ça c'est que des suppositions, mais c'est juste pour dire que c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Et on nous dit pas qu'il avait aussi 15 ans. Il avait 75 ans. C'est un homme qui était âgé, un homme qui était posé, un homme qui avait peut-être un certain renom. Et c'est qu'un homme qui porte le nom de Père Exalté. Abraham, avant qu'il soit renommé Père Exalté. C'est un homme qui va rencontrer Dieu. C'est d'un coup, c'est soudain. Et cette rencontre, c'est la volonté de Dieu qui va s'engager lui-même. C'est lui-même qui va trouver Abraham. Abraham, on ne dit pas qu'il cherchait Dieu. C'est Dieu qui vient chercher Abraham et qui va lui dire, Lech Lecha, donc hein, vous savez, mon amour pour la parole de Dieu, mais non, pour l'hébreu aussi. Alors Lech Lecha, ça veut dire va-t'en pour toi, va-t'en de ton pays, mais c'est va-t'en pour toi. C'est quelque chose qui n'apparaît pas dans nos traductions, c'est pour ça que je l'ai précisé. C'est va-t'en pour ton bien. Dieu, il se présente, mais lui dit, Abraham, tu vas sortir de ton pays, tu vas sortir de ta patrie, tu vas sortir de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Mais il n'apparaît pas dans nos traductions que c'est pour son bien. Dieu va lui dire, ce que je te dis, c'est pour ton bien. Dans l'expression Lech Lecha en hébreu, cette idée que c'est sortir pour notre bien. Parce que Dieu, il va demander quoi? Des choses complètement folles à Abraham. Il va dire, sortir, donc physiquement, mais aussi spirituellement de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Abraham, il doit renoncer finalement à lui-même, en tant qu'homme, Abraham. Parce qu'à l'époque, à Charan, il avait si bien sa famille, il avait une certaine notoriété, il était installé à l'abri, en sécurité. Tout le monde devait à peu près le connaître. Mais Dieu va lui dire, tu sors de là. Comme aujourd'hui, il nous a invités à sortir de ce monde, hein. Spirituellement, hein, bien sûr, il nous a pas demandé de partir, mais spirituellement, il nous demande de sortir et pour notre bien. Et c'est une notion importante parce qu'il dit, c'est pour toi que je le fais. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il nous dit aussi de sortir de la maison de son père. Voilà ce qu'il dit à Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Et ça, dans l'époque, hein, et même encore dans certains pays, sortir de la maison de son père, en fait, c'est renoncer à ce que nous sommes. Parce que tout l'héritage des maisons paternelles, surtout au Moyen-Orient, il est en train de lui dire, cesse d'être Abraham, moi, je vais t'admettre quelque part et tu seras quelqu'un d'autre. Alors nous, on le voit pas, hein, c'est pour ça que c'est important des fois de remettre dans un contexte, on le saisit pas forcément. Quelque part, Dieu lui annonce déjà qu'il va renoncer à ce qu'il était pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Renonce à ce que tu es, à tout ce qui fait de toi cet Abraham pour venir dans le plan que moi j'ai pour toi. Et ce plan, il est pour ton bien. C'est pour notre bien que Dieu nous a choisis, nous a invités à sortir de ce monde. C'est jamais pour notre mal. Même s'il y a des difficultés, et Abraham en aura. Mais dis, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ce que tu es en train de vivre. Et moi, je vais te montrer un pays que je te montrerai. Donc Abraham ne sait même pas quel pays il va. 75 ans, hein. Et il part. On le verra. Mais les choses incroyables que Dieu demande. Il trouve un homme assez âgé, riche, installé. Puis il lui dit, toi tu viens et on va partir ensemble. Et en fait, c'était important d'être la maison de quelqu'un. Dans la maison. Et on le verra, en Israël, ça aura de l'importance. Quand les gens vont se présenter, ils vont dire fils de, qui est lui-même fils de, Ben, ça veut dire fils. Toujours, ils sont fils de quelque chose. Et jusqu'à la destruction du temple, on était très très fiers d'être fils, d'être un descendant de Tsadok, de tous des gens importants. On se réjouissait d'être dans la famille sacerdotale, ou la famille royale. C'est important. Et voilà. Dieu lui dit, sors de tout ça. Tout ça, c'est pas important. Incroyable. Il lui invite à sortir pour lui-même l'air race. Va-t'en pour toi. Finalement, cette rencontre incroyablement puissante ne semble pas en faveur d'Abraham, l'homme, qui doit se déposséder de tout ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui, pour aller servir ce Dieu qui lui parle, dans un pays qu'il ne connaît pas. Et il sait pas combien de temps ça va lui prendre. Mais Dieu lui dit toutes ces choses auxquelles tu renonces, c'est pour ton bien, et ne le laisse pas sans rien. Ça, c'est une demande pour notre bien. Mais c'est Dieu donne aussi pour notre bien. Parce que si on arrêtait la rencontre là, on se dirait, punaise, Abraham, il avait une sacrée foi. Mais ça finit pas là, ça finit pas au verset 2. Il va lui dire, au verset 2, il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Voilà, Dieu ne laisse pas Abraham sans rien, et il ne nous a pas laissés sans rien non plus. Dieu va lui donner un pays. Abraham quitte une ville qui n'est pas à lui pour un pays. Pour une terre promise que ses descendants auront. C'est incroyable. Quitte ce que tu as tout de suite, de visible, de palpable, que tu peux vérifier, pour quelque chose qui vient, mais qui est plus grand, mais qui vient, mais qui est magnifique, qui est promis par Dieu, mais qu'on voit pas, et qu'il va falloir se réaliser. Et ça, c'est tout ce qu'on verra avec Josué. Toute la réalisation de la conquête du pays de Canaan, qui va se réaliser plus de 400 ans plus tard. Mais Abraham croit. Abraham croit qu'il aura ce pays. Et Abraham part. Mais moi, donc Dieu, il va donner mieux. Il dit, tu as déjà ça dans le présent, dans le palpable, mais moi je vais te donner quelque chose que tu vas avoir. Quitte ce que tu as pour ton bien. Et c'est tout ce que l'on verra ensemble par la suite dans cette marche chrétienne au travers de la vie de Josué. Dieu lui donnera une nation. Non seulement il va devenir un pays, mais Abraham va fonder un peuple. C'est plus qu'une maison paternelle dans une ville. C'est quasiment un peuple, il devient le premier d'un peuple. Un peuple, un patriarche d'une grande multitude. Non seulement physique, tout le peuple d'Israël, mais aussi spirituel, dont nous sommes nous les héritiers. Abraham, qui était un homme en Charan, peut-être connu de son époque, devient aujourd'hui connu, plus de 2000 ans après, il est encore connu. S'il était resté à Charan, est-ce qu'on aurait su qu'Abraham avait existé? C'est pas sûr. Il est vraiment sorti pour son bien. Abraham a quitté cette terre et nous en sommes les bénéficiaires également. C'est une bénédiction qui devient universelle parce qu'il dit « Je te bénirai, je ferai de ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Vous imaginez ? Moi, j'imagine pas, personnellement, mais voilà, Abraham rencontre un Dieu le Dieu qui se présente comme l'Éternel. C'est important parce que c'est le tétragramme, hein, c'est ce qu'on appelle le Yod E Vav E, ce qu'on traduit maladroitement par Jéhovah ou tout un tas de d'autres noms, mais voilà, on ne sait pas comment ça se prononce. Mais voilà, il se présente comme l'Éternel, comme le Dieu. Et il lui dit « Pars ». Et en plus, ton nom, je bénirai toutes les nations. Ouf ! Abraham connaissait pas toutes les nations, mais il a eu foi, et il est parti. Et cette rencontre va le changer. Abraham à Charan n'est pas le même que l'Abraham qui quitte Charan avec Lot, avec ses serviteurs. Cette rencontre puissante a peut-être pu l'effrayer, la Bible nous dit rien, mais elle est source d'un réel changement et durable dans la vie d'Abraham et dans tous ceux qui l'ont rencontré. C'est ce que j'espère ce matin, c'est que ceux et celles qui ont réellement rencontré le Seigneur, il a puissamment changé leur vie. Ah, c'est pas toujours facile, hein, et ce ne sera pas dans la vie d'Abraham, et dans la vie de Josué qu'on va suivre, ça sera pas plus facile. Mais c'est un appel sincère que Dieu fait à chacun d'entre nous, comme il a fait à Abraham. Viens. Viens. Et là, nous avons en plus une révélation en plus en Jésus-Christ. Quitte ce que tu as pour venir à moi. Quitte-le. Ce qui te retient loin de moi, quitte-le. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est ce qui nous invite. Il a invité Abraham, et voilà pourquoi j'ai choisi Abraham, parce que il invite Abraham à tout quitter, dans tout ce qu'il était, pour le suivre vers quelque chose qui vient. Et ça, c'est ce qu'il nous a promis en Jésus-Christ. Oui, n'ayez pas peur du monde, j'ai vaincu le monde. Et il y a quelque chose qui vient et qui est mieux. On l'a prié dans ce sens, le Seigneur revient. Et ça, c'est une espérance. Bien que les choses pour Abraham ne vont pas être que bonnes dans sa vie, pour les chrétiens non plus, hein, ça sera pas rose, et Jésus l'a dit lui-même, hein. Comme ils ont traité le maître, les serviteurs seront traités de la même manière. Ne croyons pas qu'on échappera, j'allais dire, aux vivicitudes de la vie, malheureusement, mais c'est pour notre bien, parce que Dieu ne nous laisse pas seuls ni sans promesses. Dieu nous a laissé Jésus-Christ et ses promesses, et nous a donné le Saint-Esprit. Un plus qu'Abraham n'avait pas. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné une famille, l'Église, et Dieu nous a donné un héritage qui vient. Donc peu importe ce que ce monde et ce que j'y possède, peu importe mon nom, ça n'a pas de valeur face à ce que Dieu nous offre aujourd'hui et ce qu'il nous offre dans l'éternité. Et dans cette puissante rencontre, ne résistons pas. Mais si Dieu m'appelle encore aujourd'hui, comme dit l'auteur du livre aux Hébreux, si aujourd'hui il parle, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est aujourd'hui encore que le Seigneur nous laisse la grâce. Et c'est une rencontre qui change. Dans Genèse, on suit un 4 à 5, Abraham partit. En rencontre, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot sortit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit. Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, son fils, de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent à Canaan. Alors bon, dans la Bible, c'est rapide, mais vous voyez la distance, c'est pas tout près, en fait, il est pas sorti, il y a quand même une petite distance. Bon, il venait dur tout au début, mais voilà, ils ont marché, 75 ans, on lui dit change de vie, ben il part. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette rencontre, Abraham? Tout de suite après, on a l'impression, en tout cas c'est dans l'immédiateté, Abraham partit. Il n'a pas dit, ouais, attends, je vais réfléchir à ce que je viens de voir, je vais réfléchir à ce que je viens de rencontrer, je vais en parler, je vais discuter, je vais vous peser le pour et le contre. Non, Abraham partit. Ça, c'est, il a mis sa foi en action. Et c'est comme une anecdote d'un soldat de l'armée de Napoléon. Alors, peut-être certains la connaissent, c'est une anecdote qui, moi, m'a beaucoup surpris quand je l'ai lu la première fois. Le Napoléon passe en revue ses soldats et son cheval se cabre, devient incontrôlable. Et il y a un des soldats qui sort du rang et qui l'attrape, le cheval, et qui le calme. Et Napoléon lui dit « Merci, capitaine ». Il lui dit « De quelle unité ? De ma garde personnelle ?» Et le soldat s'en va. Il va trouver un officier puis il dit « Je suis capitaine ». « Mais sous les ordres de qui ?»« De l'empereur ». D'accord. Alors c'est une anecdote, on se dit quel est le rapport. C'est qu'il a eu foi dans ce que Napoléon lui a dit. Il a attrapé son cheval, il a dit merci capitaine, il a dit ok, je suis capitaine maintenant. Et il est parti recevoir ce qu'on lui avait promis. Et à côté de ça, il y a une femme qui était très pauvre dans les pays de l'ancienne Russie, de l'Empire de Russie. Et il y a un homme qui passait en cheval, qui donnait des Bibles. Et il l'a vu, cette femme qui était pauvre, il lui donne une Bible, et cette femme dit, c'est pas ça qui va me nourrir, c'est pas la lecture qui va me nourrir. Il dit, mais prenez-la, et lisez-la. Et quand il repasse, un peu de temps après, elle a toujours pas ouvert la Bible. Elle lui dit, si vous l'aviez ouvert, la première page, c'est une invitation à venir manger dans le palais, et d'être chaud, et d'être nourri, et d'avoir tout ce que vous voulez. Dans la première page de la Bible, il y avait cette invitation, parce que celui qui lui avait donné cela, c'était un des responsables du palais, voire même le responsable absolu, le chef du pays, qui se déguisait et qui donnait ce genre de choses. Mais elle n'a pas eu foi. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas mis en action ce qu'on lui avait dit de faire. Lit. Elle n'a pas voulu. Et voyez, on a deux côtés hein, dans une lors de cette puissante rencontre. Soit elle change et on part. Soit on croit pas et on discute et on part jamais. Mais Abraham, lui, il a obéi. Il est parti de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Il va marchant. De la folie, ça. Ça, c'est sûr, pour certains, ça a dû être de la folie. Hein. Les voisins d'Abraham ont dû être choqués. Qu'est-ce qu'il fait? Eh mais, mon vieux, pars. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, il est parti. Et on sait pas hein, comment ça a dû être perçu autour de lui. Hein. Peut-être comme au temps de Noé. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Tu fabriques quoi? Un bateau sert à quoi? La folie. On vous l'a peut-être déjà rencontré aussi chez vous, hein, par rapport à vos comportements, par rapport à ce que vous pensez. Mais vous êtes fou de penser comme ça. Parce que la folie de Dieu, elle est plus sage que celle des hommes. Mais Abraham a saisi les promesses de Dieu et il y a cru. Et c'est pareil, hein, on a de nombreux passages quand il dit « Abraham a cru et cela lui fut imputé en justice. » Il a cru, il a mis sa foi en action, il a obéi à ce Dieu de cette rencontre. Et il marche là où l'amène Dieu. Comme j'avais dit, hein, si Abraham n'avait pas obéi, alors, par la grâce de Dieu, tout était déjà préexistant, mais si Abraham n'avait pas obéi, le monde aurait oublié son nom, mais personne n'aurait jamais su qu'il avait existé. Mais par sa foi, des milliards de personnes connaissent et ont connu, et connaîtront, autant que Dieu le permette, Abraham. Abraham a bien fait, sa foi était normale. Si on lit la Bible, on dit, bah oui, c'est normal qu'il ait cru, avec tout ce qu'il va avoir comme bénédiction, mais Abraham, il connaît pas l'avenir. Il est comme nous aujourd'hui. Je ne sais pas que de quoi demain sera fait. Et Abraham, il avait aucune raison, j'allais dire, sensée d'abandonner son nom, d'abandonner ce que Dieu lui demande. Mais il va le faire. On dit, oui, bah tu vois, finalement, il va avoir un pays, il va avoir une heureuse vieillesse, le Seigneur va le bénir. Oui, mais ça, nous, on le sait parce qu'on l'a lu. Mais Abraham, lui, il connaissait rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention des fois. On se dit, oui, mais t'as vu tout ce qu'il y a après, mais... Abraham ne savait pas, il a connu certaines choses, mais il ne savait pas sa vie. Et il a mis une chose, il savait que ce Dieu qu'il avait rencontré était le Dieu de l'univers. Il savait que cette rencontre l'a convaincu. Elle a changé son cœur. Il est désormais au service de Dieu et plus à son propre service ou à celui d'une idole quelconque. La foi est la réponse. Abraham est le père de la foi. On est trois grandes religions se partagent ce père de la foi. Mais cette rencontre, c'est cette rencontre que tout chrétien véritable a eu une fois dans sa vie. Cette rencontre, on a eu foi en Dieu à travers Jésus-Christ. On s'est dit, oui, je suis pécheur. Je mérite cette condamnation. Je ne peux m'approcher de Dieu en aucun cas. Ni par mes mérites, ni par mon argent, ni par rien du tout. C'est en Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, que je peux m'approcher. J'ai foi en Dieu. J'ai foi dans l'action du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est la même chose qu'Abraham a eu. Il a eu foi en ce Dieu qui s'est présenté comme l'Éternel. Il a cru. Croire ou ne pas croire, ça dépend de vous. Mais Dieu a fait le premier pas. Il est venu à notre rencontre en Jésus-Christ. On ne pourra pas tenir procès devant Dieu en disant « Je n'ai pas su. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» La croix nous montre tous les jours ce qu'il a fait pour nous. Et aujourd'hui, on dénigre la foi. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein. Mais tout doit être visible, tout doit être palpable, tout doit être apparence. On ne croit en rien qu'on ne peut prouver. Et pourtant, qui a vu de l'argent enfin, aujourd'hui, hein, l'argent, on le voit plus beaucoup. C'est des numéros sur des comptes, c'est des informations bancaires, mais on voit plus beaucoup l'argent tel qu'il était. Au départ, hein, on voit, il y a une dégradation de ce que c'était. C'était de l'or, des métaux, c'était du palpable, après c'est devenu du papier, avec les billets, et maintenant c'est devenu de l'information. Et il y a un rabbin qui disait, c'est vraiment du vide, parce que vous savez que l'idole en hébreu, c'est le vide, le néant, le rien. Et il dit, l'argent est un bon moyen. C'était quelque chose de visible qui est devenu maintenant dans l'abstrait. Ça ne veut plus rien dire. Et si, bon, moi je m'intéresse pas forcément, si vous vous intéressez à l'économie, des fois vous voyez que ça ne veut plus rien dire. Il y a des milliards et des milliards de dettes, on ne sait pas d'où elles sortent. Puis il y a des gens qui font des chèques de milliards, de milliards, de milliards, on ne sait pas d'où ça sort non plus. Ça devient n'importe quoi, en fait. Et on dit, non, nous on croit en rien. La foi, ça sert à rien, mais ces gens ont foi dans leur système bancaire. Ils ont foi dans leur compte en banque. Ils ont foi en plein d'autres choses. Et nous, on a foi en Dieu, et on est souvent, ou on peut être, la cible de moquerie. Pourtant, nous ne sommes pas des perdants. Abraham n'était pas perdant. Même si aux yeux de ses contemporains, il a dû paraître peut-être comme un illuminé qui perd tout, un fou qui va aller mourir au désert. Non. Cette rencontre puissante nous a changé. Ou elle doit nous changer. Elle doit faire naître en nous la foi en ce Dieu si grand. Un chrétien qui s'engage dans la vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu, et qui ne peut se confier qu'en Dieu. Même si ce que Dieu demande paraît fou, la foi c'est la seule solution qui fait que ce monde est encore là. C'est par la foi. C'est seulement par la foi que nous plaisons à Dieu, et ça c'est dit plusieurs fois dans la Bible. Et c'est par la foi que je suis sauvé, là aussi c'est dit aussi plusieurs fois dans la Bible. Le juste vivra par la foi. Notre réponse à cette rencontre détermine notre avenir éternel. Pourquoi ce matin je t'invite à ne pas rejeter aussi facilement la puissante rencontre que Dieu a fait avec l'humanité en Jésus-Christ. Là, il a rencontré un homme et en Jésus-Christ, il est venu rencontrer l'humanité. Il est venu donner cette universalité qu'il avait promis à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc notre réponse détermine cet avenir éternel. Regardons avec foi et faisons comme Abraham, obéissons à Dieu, qui est pour nous le meilleur. Voilà, il a eu foi, c'est la réponse. Hein. La réponse à l'appel de Dieu, c'est la foi. Et c'est le début de cette marche chrétienne. C'est le balbutiement, et après on apprend. Et après on apprend tous les jours, et c'est pas facile tous les jours. Hein. Mais Dieu a fait le plus gros, et il a fait le premier pas. Nous devons, nous aussi avoir foi en Dieu, et marcher avec lui, et nous confier en ses promesses. Et c'est une relation vivante qui va s'établir. Vous voyez, c'est une rencontre qui devient relation. J'ai rencontré ma femme au début, et c'est devenu une relation. Et Dieu, il désire la même chose. Tu m'as rencontré, oui, mais ne reste pas là. Entre en relation avec moi. Et on verra, hein, Josué, ça va être pareil. Il a fait toute cette rencontre, et après, il va avoir des promesses. Et il va avoir cette marche chrétienne, il va avoir cette relation avec Dieu, avec ses hauts et ses bas. Genèse 12, versets 6 à 9, on voit Abraham, il parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. L'Éternel lui apparaît au verset 7, et il fait un autel. Il se transporta de là, il va à l'autel, il dresse ses temples à Bethel, et là encore, il bâtit un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Ça, c'est un culte. Hein. Invoquer Dieu, c'est culte. Il invoque. L'Éternel lui parle. Ce Dieu qu'il n'avait pas rencontré avant, il lui parle. C'est un Dieu qui va lui annoncer des choses. C'est un Dieu qui ne reste pas anonyme ou lointain. Il est venu à sa rencontre et il veut établir une relation vivante. Attendez que je retrouve ma page. Voilà. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Il lui dit pas, va dans le pays et c'est tout. Que je te montrerai. Dieu s'engage comme il s'est engagé le premier. Il n'est pas un Dieu qui nous désire nous voir nous débattre avec nos difficultés. Non, il veut répondre à notre foi. Et il veut rentrer en relation. Il veut tisser cette relation qui existait avant la chute. Adam et Ève, dans l'endroit où ils étaient, dans le jardin d'Éden, avaient une relation qui nous dépasse, qui ne sera rétablie qu'à la fin. Une relation qui, nous, on a du mal à l'imaginer. Une relation où il n'y avait pas besoin de masque, il n'y avait pas besoin de quelque chose d'autre, il n'y avait pas besoin d'autres personnes, de médiateurs. Aujourd'hui, il y en a Jésus-Christ. Mais il désire cette relation avec cette créature, qui est l'homme déchu. C'est pourquoi la rencontre a changé Abraham, va se transformer en relation, dans cette marche. Et à chaque étape, Abraham va apprendre un peu plus, et sur lui, et sur Dieu. Abraham est parti, Et on va voir que ce pays ne lui appartiendra jamais. Parce que c'est seulement la conquête de Canaan, donc plus de 400 ans plus tard. Mais Dieu parle à nouveau à Abraham. Ne le laisse pas sans promesse. Dieu dit, je te promets de donner ce pays à ses descendants. Alors déjà, ça change. Il dit, je vais te donner un pays, mais c'est ses descendants. Mais il a la foi. Il a la foi, oui, mes descendants auront ce pays. Je serai une nation, vous imaginez? Et il adore l'Éternel avec un autel, deux autels. Il parcourt le pays et il rend un culte à Dieu. Il prend possession des promesses. Il prend possession spirituellement du pays. Hein, il va le parcourir en mettant des autels. Hein. Et si vous regardez, si vous tracez le chemin d'Abraham, vous voyez, à chaque fois, il va mettre des autels à des lieux clés et il va spirituellement conquérir le pays. Il ne l'aura jamais physiquement, mais spirituellement, il va déjà placer des autels et il va rendre un culte à Dieu. Et nous sommes passés en quelques versets, on voit, d'un homme riche, prospère, dans une ville qui connaît pas Dieu, en tout cas rien ne dit qu'il le connaissait, à un homme nomade, détaché de sa ville, de son pays, de sa culture, de la maison de son père, dans un pays qui est totalement étranger, et qui donne un culte à un Dieu qu'il ne connaissait pas, mais qui possède quelque chose, la foi. Cette rencontre incroyable entre Dieu et Abraham a changé le cœur de l'homme pour de bon. Et il va créer une relation. Dieu ne désire pas des robots, mais une relation. Parfois, hein, quand on regarde certaines croyances autour de nous, c'est des robots, lobotomisés pour répondre à tous la même chose. Ils sont assis tout le temps de la même manière, habillés de la même manière. Ils répondent la même chose à toutes les mêmes questions. On a une uniformité totale. Et c'est pas ça que Dieu demande. C'est pas ça que Dieu demande. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Vous êtes différent de moi, je suis différent de vous. Et Dieu le sait. Et la relation qu'il établit, eh ben, elle prend en compte notre caractère, notre vécu, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et il nous demande d'avancer avec lui. Ça veut pas dire qu'on doit rester colérique. Ça veut pas dire que je dois rester un juge. Ça veut pas dire que je dois rester bagarreur. Ça veut dire que le Seigneur va prendre un temps pour moi, pour me travailler mon cœur et abandonner ce qui, moi, me fait défaut, mais avec l'aide des frères et sœurs, qui, eux, n'ont pas ce défaut, et on va s'encourager mutuellement, et on va marcher ensemble. Dieu ne désire pas des robots, parce que souvent on me dit, pourquoi Dieu ne dit pas qu'il existe? Comme ça, on serait tranquille. Mais c'est pas la foi, ça, si on est sûr. Et quand Jésus reviendra, on sera sûr. Mais ça sera pas la foi, la réponse. Ça sera la crainte. Parce qu'on n'a pas cru avant et on croit quand on voit. C'est ce que Dieu demande, d'avoir foi en ses promesses et de créer une relation puissante. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, on est bien placé pour savoir que le monde, eh ben, les gens n'ont pas d'assurance. Mais nous, nous avons une assurance. Dieu est aux commandes de ce monde. Et peu importe ce qui s'y passe, Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous pour que nous lui donnions un culte. Ah oui, Abraham, il n'est pas resté. Oui, je crois. C'est cool. Je vais y aller, et puis je demande rien. Et on va voir, à chaque fois qu'il a pas demandé, ça s'est pas bien passé. Mais il veut entrer en relation avec ce Dieu. Il veut l'adorer. Il a saisi. Ah, c'est le créateur du monde qui est là. J'ai la crainte, mais j'ai aussi le respect, j'ai la foi, et je lui donne un culte. Être chrétien, ce n'est pas cocher des cases. C'est bon, j'ai ma Bible, je vais au culte, je me suis baptisé, tac, tac, ça c'est mon CV de chrétien. Non, c'est pas ça, c'est une relation. Je lis ma Bible deux fois par jour. C'est pas héréditaire aussi. Moi, je suis chrétien, mes parents l'étaient, donc ouais, je le suis, super. J'étais baptisé quand j'étais petit. Non, c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est avoir rencontré Dieu. Être chrétien, c'est avoir un cœur qui a été changé en Jésus-Christ et qui a complètement changé notre vision du monde. C'est entrer dans une relation que nous avions perdue à la chute. Abraham était le premier d'une multitude. Et ce matin, nous voyons et comprenons que Dieu n'avait pas promis en vain. Nous sommes les héritiers de ce qu'il a promis. Et il y a longtemps qu'il l'a promis. Hein. Mais Abraham a cru qu'un jour, on serait béni au travers son nom et le nom de Jésus-Christ. Abraham a eu et a encore une grande descendance. Aujourd'hui, si tu rencontres Dieu, quelle est ta réponse? Et si tu l'as rencontré, et si tu as accepté, ben garde courage, parce que nous verrons ensemble que la marche chrétienne, bien que pas facile, est remplie des belles promesses de Dieu. Voilà, rendre un culte à Dieu. Dieu qui a parlé à Abraham, mais Abraham qui adore, une relation qui va s'installer. une relation particulière. Abraham ne parle pas de la même manière à Dieu que Moïse, que d'autres, que Paul. Chacun va avoir sa relation. Moi, vous, on a chacun une relation différente, mais profonde avec Dieu, et c'est ce qu'il veut. Et pour conclure, toute marche chrétienne véritable a commencé par cette rencontre puissante. Personne ne peut dire « je suis devenu chrétien » sans avoir rencontré Jésus-Christ. Cette rencontre nous a changé. Si on n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué. Si on semble pas fou pour le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué. Quand je me suis converti, les gens ne m'ont pas reconnu. Mais j'étais content. Si j'étais quelqu'un de pas sympa, je suis pas quelqu'un de mieux, mais un tout petit peu, quand même. J'ose espérer. Un tout petit peu mieux. Le travail est long. Mais voilà, c'est vraiment un changement. Et les gens m'ont dit, il y a quelque chose qui a changé. Mais j'étais content. Parce que déjà, on peut témoigner. Pas facile, mais on peut témoigner. Mais oui, quelque chose a changé. Mon regard a changé, mon cœur a changé parce que je rentre en relation. Et quand je perds cette relation, ma vie chrétienne, elle s'affadit. Entrer en relation avec Dieu. Et car Dieu va changer les cœurs. Il va changer ton cœur si tu le laisses faire. Et ceux qui le suivent, c'est par la foi que nous servons et que nous obéissons. Car Dieu accomplit ses promesses. Et ça, c'est une réalité qu'aujourd'hui, on veut nous ôter. Il n'y a pas d'avenir. Tout doit être fait maintenant parce que demain, on ne sait pas. Comme disait Madame de Pompadour, après nous le déluge. Et avec une vie débauche, parce que aucune espérance. Tout doit être consumé là. Mais nous avons une grande espérance. Et dans le Deutéronome 31, versets 7 et 8, ça c'est l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Hein. Un des accomplissements de ce que Dieu avait promis. C'est Moïse qui va appeler Josué, il dit, « En la présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. » C'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. L'accomplissement des promesses faites à Abraham va s'accomplir partiellement en Josué. Mais il va quand même s'accomplir. Dieu se sert de Josué pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ne soyons pas inquiets, mais marchons par la foi. Et nous savons que Christ règne dans les cieux et qu'il revient, et même si c'est long. Je suis le premier parfois à trouver le temps long. Mais c'est notre glorieuse espérance. Nous aussi, une ville nous est promise. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Alors j'aimerais vous laisser, comme source d'encouragement pour chacun d'entre nous, dans un monde qui est découragé, dans un monde qui cherche désespérément une once d'espoir. Puissions-nous vivre une vraie relation avec Dieu, et je voulais vous laisser Apocalypse 22, versets 16 et 17, où c'est Jean qui écrit ce dernier livre de la parole de Dieu, et il reprend les paroles que Jésus dit. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton à la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, et celui qui le veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Voilà, puissons-nous être encouragés à dire « Seigneur, viens, bientôt. » Amen.